Lucien de Samosate, les sectes à Lancan. Jupiter, Mercure, un marchand, Pythagore, Démocrite, Héraclite, Socrate, Diogène, Chrysippe, Épicure, un philosophe pyrrhonien. Jupiter, allons-toi, dispose les sièges. Prépare la salle pour les arrivants. Toi, fais ranger par ordre les différentes sectes, mais aie soin d'abord de les parer, afin qu'elles aient bonne mine et attirent beaucoup d'acheteurs. Toi, Mercure, fais l'office de crieur, attelle les chalands, et qu'une bonne chance les fasse arriver au marché. Nous allons vendre à la criée les sectes philosophiques de tout genre et de toute espèce. Ceux qui ne pourront pas payer comptant payeront l'année prochaine en donnant caution. Mercure, la foule arrive, il ne faut pas tarder, ni les faire attendre davantage. Jupiter, eh bien vendons. Mercure, qui veux-tu que nous mettions le premier en vente? Jupiter, cet Ionien aux longs cheveux, il a l'air d'un homme respectable. Mercure, eh, le pythagoricien, descends et fais-toi voir. Jupiter, allons, mets en crier. Mercure, je vends la vie parfaite, la vie sainte et vénérable. Qui est-ce qui l'achète? Qui veut être au-dessus de l'homme? Qui veut connaître l'harmonie de l'univers et revivre après sa mort? Le marchand, il n'a pas mauvais air. Que sait-il? Mercure, l'arithmétique, l'astronomie, la magie, la géométrie, la musique, la fourberie. Tu vois là un excellent devin. Le marchand, est-il permis de l'interroger? Mercure, interroge et bonne chance. Le marchand, d'où es-tu? Pythagore, de Samos. Le marchand, où as-tu été instruit? Pythagore, en Égypte, chez les sages du pays. Le marchand, voyons si je t'achète, que m'enseigneras-tu? Pythagore, je ne t'enseignerai rien. Je te ferai ressouvenir. Le marchand. Comment me feras-tu ressouvenir? Pythagore. En purifiant d'abord ton âme et en la nettoyant de ses ordures. Le marchand. Eh bien, imagine qu'elle est purifiée. Comment me donneras-tu la réminiscence? Pythagore. En commençant par t'imposer un calme parfait, le mutisme absolu pendant 5 années. Le marchand. Va-t'en, mon cher, instruire le fils de Crésus. Je veux un homme qui parle, et non une statue. Mais enfin, après ce silence de 5 ans, que ferai-je? Pythagore. Tu t'exerceras à la musique et à la géométrie. Le marchand. Tu es charmant. Il faut commencer par être musicien pour devenir sage. Pythagore. Ensuite, tu apprendras à compter. Le marchand. Je sais compter. Pythagore. Comment comptes-tu? Le marchand. 1, 2, 3, 4. Pythagore. Attention à ce que tu crois être 4. C'est 10. C'est le triangle parfait. C'est notre serment. Le marchand. J'en jure par 4 le grand serment. Je n'ai jamais ouï langage plus divin et plus sacré. Pythagore. Ensuite, étranger. Tu sauras ce qu'est la terre, l'air, l'eau et le feu, quelle est leur forme, leur mouvement naturel, et comment ils se meuvent. Le marchand. Quoi, le feu, l'air, l'eau ont une forme? Pythagore. Certainement, et très visible, autrement, sans forme et sans apparence, ils ne pourraient pas se mouvoir. De plus, tu sauras que la divinité est un nombre et une harmonie. Le marchand. Voilà qui est étonnant. Pythagore. Et quand je t'aurai expliqué tout cela, tu sauras que tu n'es pas un, comme tu le penses, mais un autre que celui que tu crois être et que tu parais. Le marchand. Que dis-tu là? Je suis un autre et ce n'est pas moi-même qui converse avec toi? Pythagore. Actuellement, c'est toi-même. Mais autrefois, tu apparus dans un autre corps, et sous un autre nom, par la suite, tu passeras encore dans un autre être. Le marchand. Tu veux dire que je serai immortel, passant ainsi de forme en forme. Mais en voilà assez de ce propos. Passons à ta manière de vivre, quelle est-elle ? Pythagore. Je ne mange rien qui ait eu vie. Tout le reste m'est permis, sauf les fèves. Le marchand. Pourquoi cela ? Ne les aimes-tu donc pas ? Pythagore. Je les aime, mais elles sont sacrées, et leur nature est merveilleuse. Et d'abord, elles sont toute génération. Ôte la peau à des fèves vertes, tu verras qu'elles ressemblent beaucoup aux testicules de l'homme. Fais-les cuire et expose-les pendant un certain nombre de nuits aux rayons de lune. Mais ma plus forte raison, c'est que les Athéniens s'en servent pour élire leurs magistrats. Le marchand. Tu parles bien, et comme un orateur. Mais ôte ta robe, je veux te voir nu. Par Hercule, il a une cuisse en or. C'est un dieu, il n'a rien d'un homme. Il faut absolument que je l'achète. Quelle est sa mise à prix, Mercure ? 10 mines. Le marchand. Les voici, je les compte. Jupiter. Mais le nom de l'acheteur et sa patrie. Mercure. C'est, je pense, quelque Italien, Jupiter. Un habitant de Crotone, de Tarente ou de la Grande Grèce. Mais il n'est pas seul. Ils sont au moins 300 qui l'ont acheté en commun. Jupiter. Qu'il l'emmène et qu'on leur en fasse voir un autre. Mercure. Veux-tu cet homme malpropre, né dans le pont ? Jupiter. Justement. Mercure. Et l'homme à la besace et à la tunique sans manches ? Viens ici. Fais le tour de la salle. À vendre une vie mâle et courageuse, une vie libre, qui est-ce qui achète ? Le marchand. Que dis-tu, crieur ? Tu vends une vie libre ? Mercure. Oui. Le marchand. Tu ne crains pas qu'il t'accuse de commerce frauduleux et qu'il te cite devant l'aéropage ? Mercure. Il se soucie peu d'être mis en vente. Il n'en pense pas moins être libre. Le marchand. À quoi peut-il servir un être aussi crasseux, aussi misérablement vêtu ? On ne peut en faire qu'un terrassier ou un porteur d'eau. Mercure. Oui. Mais autre chose encore, fais-en un portier, il te gardera mieux qu'un chien. D'ailleurs, il est déjà chien, par son nom. Et quelle est sa patrie, sa profession ? Mercure, interroge-le toi-même, c'est ce qu'il y a de mieux. Le marchand, j'ai peur, à voir cette figure sombre et farouche, qu'il n'aboie après moi, si je l'approche, et ma foi, qu'il ne me morde. Ne vois-tu pas comme il lève son bâton, fronce les sourcils et lance des regards menaçants et furieux ? Mercure, n'aie pas peur, il est apprivoisé. Le marchand, d'abord, mon ami, dis-moi d'où es-tu ? Diogène, de partout. Le marchand, que veux-tu dire ? Diogène, tu vois un citoyen du monde. Le marchand, qui donc imites-tu ? Diogène, Hercule. Le marchand, pourquoi alors n'es-tu pas vêtu de la peau de lion ? Ton bâton te donne déjà un air de ressemblance. Diogène, ma peau de lion, c'est ce manteau. Comme Hercule, je fais la guerre aux voluptés, non par ordre, mais de moi-même. J'ai entrepris de nettoyer la vie humaine. Le marchand, belle entreprise ! Mais en quoi es-tu donc le plus habile ? Quel est ton métier ? Diogène. Je suis libérateur des hommes et médecin des passions. En un mot, je veux être l'interprète de la vérité et de la franchise. Le marchand. À merveille, mon cher interprète. Si je t'achète, comment m'instruiras-tu ? Diogène. En te prenant pour disciple. Je commencerai par te dépouiller de ton bien-être. je t'enfermerai dans l'indigence, je te vêtirai d'un manteau, ensuite je te forcerai à peiner et à travailler, dormant par terre, buvant de l'eau, ne mangeant que ce qui te tombera sous la main. Mais si tu as des richesses, fidèle à mes leçons, tu les jetteras dans la mer. Tu ne te soucieras plus de femmes, d'enfants, de patrie, tout cela pour toi ne sera que fadaise. Tu abandonneras la maison paternelle pour habiter un tombeau, quelques tours abandonnées, ou bien un tonneau, et tu auras une besace pleine de lupins, de livres écrits sur les deux pages, et dans cette condition, tu te vanteras d'être plus heureux qu'un grand roi. Si l'on te donne des coups de fouet, si l'on te met à la question, tu ne croiras pas que ce soit le mal. Le marchand, que dis-tu là? Je n'éprouverai point de douleur si l'on me fouette. Je n'ai pas une carapace de tortue ou de crabe. Diogène, tu suivras la maxime d'Euripide avec une légère variante. Le marchand, laquelle? Diogène, l'âme pourra souffrir, mais la langue, non pas. Voici maintenant les qualités que je veux te voir acquérir. Sois d'abord effronté, impudent, insolent avec tout le monde, roi et particulier. Cela te fera regarder et passer pour un homme de cœur. Que ton langage soit barbare, ta voix rauque et semblable à celle d'un chien, que ta mine soit renfrognée et que ta démarche réponde à ta mine. En un mot, que tout, chez toi, soit farouche et sauvage. Loin de toi la pudeur, la douceur, la modération. Efface de ton front toute rougeur de honte. Recherche les endroits les plus populeux, et là seul, au milieu de la foule, ne te lie avec personne. Fuis toute espèce d'hôte ou d'ami, les liens de société sont la mort de ton empire. Fais hardiment, aux yeux de tous, ce qu'on rougirait de faire tout seul. Affecte en amour les postures les plus risibles. Enfin, quand tu le voudras, mange un polype ou un sépia et meurs. Voilà le bonheur que nous vous promettons. Le marchand, fie donc, tout cela est hideux et indigne d'un homme. Diogène, c'est du moins bien aisé, mon cher, et facile à mettre en pratique. Tu n'auras pas besoin pour cela d'instructions, de livres et d'autres sornettes. Tu arriveras par le plus court chemin à la gloire. Et quand je serai un homme ordinaire, un savetier, un marchand de chair salée, un charpentier ou un publicain, rien ne t'empêchera de devenir un grand personnage, pour peu que tu aies de l'impudence, de l'audace et la langue affilée pour l'insulte. Le marchand. Je n'ai pas besoin de toi pour cela. Cependant, tu pourrais peut-être me servir, à l'occasion, de matelot ou de jardinier, et si le crieur consent à te donner pour 2 oboles, au plus. Mercure, prends-le pour cette somme. Nous ne sommes pas fâchés de nous en débarrasser. C'est un braillard qui insulte tout le monde à chaque instant et n'a que de vilains mots à la bouche. Jupiter, un autre. Appelle ce hérithérin vêtu de pourpre et couronné de fleurs. Mercure, allons, attention tout le monde. C'est un article rare et qui demande un riche acheteur. C'est la vie suave, la vie 3 fois heureuse. Qui est-ce qui veut de la volupté? Qui c'est qui achète cet être délicat? Le marchand. Viens ici et dis-nous ce que tu sais faire. Je t'achèterai si tu peux m'être utile. Mercure. Ne l'importune pas. Mon cher ne lui demande rien. Il est ivre. Il ne pourra pas répondre. Tu vois comme il bégaye. Le marchand. Alors quel homme de bon sens, un esclave si corrompu, si dépravé. Comme il exhale une odeur de parfum, comme sa démarche est chancelante et mal assurée. Mais dis-moi, Mercure, dis-moi quels sont ses talents et ce qu'il sait faire. Mercure, une seule chose. Il est bon convive, sachant boire en compagnie et festiner avec une joueuse de flûte, chez un maître amoureux et débauché. Il sait en outre parfaitement faire des râteaux C'est un cuisinier fort habile. Enfin, il est passé maître en fait de volupté. Élevé à Altène, il a servi en Sicile les tyrans qui lui ont tenu en grande estime. Le point sommaire de sa philosophie, c'est de mépriser toute chose, d'user de tout et de chercher en tout le plaisir. Le marchand. Tu es libre de jeter les yeux sur d'autres acheteurs. Riche et opulent, pour moi, je ne suis pas en état d'acheter sa joyeuse vie. Mercure. Celui-là, Jupiter, me fait l'effet de ne pas trouver acquéreur et va nous rester. Jupiter. Fais-le retirer, produisant un autre, ou plutôt ces deux à la fois, le rieur d'Adère et le pleureur d'Éphèse. Je vais les vendre ensemble. Mercure, avancez au milieu, à vendre deux bonnes vies. Je mets en criée les deux plus sages des hommes. Le marchand, par Jupiter, quel contraste! À l'un, il ne cesse de rire, l'autre a l'air d'assister à un enterrement. Il ne cesse de pleurer, et l'ami, qu'as-tu donc à rire? Décrite, tu me le demandes? Tout ce que vous faites me semble risible. Et vous, par-dessus le marché. Le marchand, que dis-tu là? Tu te moques de nous tous et tu n'estimes rien de ce que nous faisons? Démocrite, c'est cela même, il n'y a rien de sérieux. Tout le monde est vide, concours d'atomes, infini. Le marchand, tu te trompes, il n'y a que toi de vide et d'infiniment sot. Voyez l'insolence, ne cesseras-tu pas de rire? Et toi, mon cher, pourquoi pleures-tu? Car je préfère causer avec toi. Héraclite, je regarde toute chose humaine ou étranger comme triste et lamentable, et rien qui n'y soit soumis au destin. Voilà pourquoi je les prends en pitié, pourquoi je pleure. Le présent me semble bien peu de chose, l'avenir désolant, je vois l'embrasement et la ruine de l'univers. Je gémis sur l'instabilité des choses. Tout y flotte comme dans un breuvage en mixture, amalgame de plaisir et de peine, de science et d'ignorance, de grandeur et de petitesse. Le haut et le bas s'y confondent et alternent dans le jeu du siècle. Le marchand. Et qu'est-ce que le siècle? Héraclite, un enfant qui joue, qui jette des dés, et qui saute à l'aventure. Le marchand et les hommes, qui sont-ils? Héraclite, des dieux mortels. Le marchand et les dieux? Héraclite, des hommes immortels. Le marchand, tes discours sont des énigmes, mon cher, de vrais logogriffes, probablement. Ainsi que l'Oxias, tu ne dis rien de clair. Héraclite, je me soucie peu de vous. Le marchand, aussi faudrait-il bien être sot pour le prendre. Héraclite, moi je vous ordonne à tous de pleurer à chaudes larmes, petits et grands, acheteurs ou non. Le marchand, son mal se rapproche beaucoup de l'humeur noire. Je n'achèterai ni l'un ni l'autre. Mercure, en voilà encore deux qui nous restent au magasin. Jupiter, mets-en un autre en vente. Mercure, veux-tu ce bouffon athénien? Jupiter, oui. Mercure, viens ici, toi. Bonne vie à vendre, homme de bon sens. Qui veut acheter cet excellent personnage? Le marchand, dis-moi ce que tu sais faire. Socrate, j'aime les garçons, et je sais à fond tout ce qui concerne l'amour. Le marchand, comment pourrais-je t'acheter? J'ai besoin d'un pédagogue pour mon fils, qui est joli garçon. Socrate, qui serait mieux fait que moi pour vivre avec un beau jeune homme? Ce n'est pas du corps que je suis amoureux, c'est de la beauté de l'âme. Sois sans crainte de tous ceux qui voulaient reposer avec moi sous la même couverture, tu n'entendras aucun se plaindre que je me sois mal conduit. Le marchand, il est incroyable qu'un homme qui aime les garçons n'ait souci que de l'âme quand il est en toute liberté couché sous la même couverture. Socrate, je jure par le chien et par le platane qu'il en est ainsi. Le marchand, par Hercule, les singuliers dieux que voilà. Socrate, quoi donc? Le chien ne te paraît donc pas être un dieu? Ne vois-tu pas l'Anubis d'Égypte sous cette figure? Ne connais-tu pas Sirius au ciel et Cerbère aux enfers? Le marchand, tu as raison, je me trompais. Mais comment vis-tu? Socrate, j'habite une ville que je me suis faite moi-même. J'ai une république d'un nouveau genre où je dicte mes propres lois. Le marchand, je voudrais bien en connaître quelqu'une. Socrate, écoute la plus importante, celle qui est relative aux femmes. Aucune d'entre elles ne doit être à un seul exclusivement, mais à quiconque voudra l'épouser. Le marchand, que dis-tu? Tu n'as donc pas abrogé les lois sur l'adultère? Socrate, oui, par Jupiter, et toutes les petites formalités de cette espèce. Le marchand, quant au beau garçon, qu'as-tu décidé? Socrate, leurs baisers seront la récompense des gens vertueux et de tous ceux qui se seront distingués par un brillant exploit. Le marchand, oh le beau présent! Mais quel est pour toi l'essentiel de la sagesse? Socrate, les idées et les modèles des êtres. Tout ce que tu vois, la terre et ce qu'elle porte, la mer et le ciel, ont des images invisibles qui existent hors de l'univers. Le marchand. Où existent-elles donc? Socrate. Nulle part, car si elles existaient quelque part, elles n'existeraient pas. Le marchand. Mais je ne vois pas ces modèles dont tu parles. Socrate. Naturellement, tu es aveugle des yeux de l'âme. Mais moi, je vois les images de tous ces êtres. Je vois un autre toi, invisible, un autre moi-même. En un mot, je vois tout double. Le marchand, ma foi, il faut bien que je t'achète. Tu es un sage et tu as une bonne vue. Voyons, crieur, que me demandes-tu? Mercure, 2 talents. Le marchand, marché conclu, seulement je te payerai plus tard. Mercure, quel est ton nom? Le marchand, Dion de Syracuse. Mercure, prends et bonne chance. Maintenant, c'est au tour d'Épicure. Qui veut l'acheter? C'est le disciple de ce rieur et de cet ivrogne que j'ai mis en crier tout à l'heure. Mais il a un avantage sur eux, c'est le plus impie, et c'est d'ailleurs un délicat, un ami des bons morceaux. Le marchand, quel est le prix? Mercure, 2 mines. Les voici, mais dis-moi quels sont les mets qu'il préfère. Mercure, tout ce qui est doux et mielleux, particulièrement les figues. Le marchand, il ne sera pas difficile de lui en donner. Je lui en achèterai des paniers de figues grasses. Jupiter, fais-en venir un autre, l'homme à la peau rasée, ce renfrogné du portique. Mercure, tu as raison, beaucoup de ceux qui sont venus à la vente semblent l'attendre. À vendre la vertu même, une vie parfaite. Qui est celui qui veut tout savoir? Le marchand, que dis-tu? Mercure, cet homme est le seul sage, le seul beau, le seul juste, le seul brave, le seul roi, le seul orateur, le seul riche, le seul législateur, et ainsi pour tout le reste. Le marchand, il est donc aussi, mon cher, le bon seul cuisinier, et ma foi, le seul savetier, le seul charpentier, et ainsi pour tout le reste. Mercure, mais oui. Le marchand, viens ici, mon brave, et me dis, comme à ton acquéreur, qui es-tu, en commençant par m'avouer si tu es fâché ou non, d'être en vente et de servir. Chrysippe, pas du tout. Cela ne dépend pas de nous, nous est indifférent. Le marchand, je ne te comprends pas. Chrysippe, comment? Tu ne sais pas qu'il y a des choses proposées et des choses rejetées? Le marchand, je n'en ai jamais entendu parler. Chrysippe, cela n'est pas étonnant, tu n'es pas accoutumé à nos termes, et tu n'as pas l'imagination compréhensive. Mais celui qui a étudié avec attention la théorie du raisonnement ne sait pas seulement ces choses-là, il connaît aussi l'accident et le suraccident avec toutes leurs différences. le marchand. Au nom de la sagesse, fais-moi le plaisir de m'expliquer ce que c'est que l'accident et le suraccident, car je ne sais comment, j'ai été frappé par la douce harmonie de tes expressions. Chrysippe, très volontiers, lorsqu'un homme est boiteux, et qu'en heurtant son pied boiteux contre une pierre, il vient à se blesser, l'infirmité qui le fait boiter est l'accident, et la blessure, le suraccident. Le marchand, oh la finesse! Qu'est-ce que tu connais encore à fond? Chrysippe, les filets du langage dans lesquels je prends mes interlocuteurs. Je leur clôt la bouche, je les mets en bâillon et je les réduis au silence. Et le nom de cette invention puissante, c'est le fameux syllogisme. Le marchand, par Hercule, voilà une arme terrible et virulente. Chrysippe, tu vas en juger. As-tu un fils? Le marchand, pourquoi cela? Chrysippe, supposons qu'un crocodile l'ait enlevé, lorsqu'il errait sur le bord d'un fleuve, et qu'ensuite il t'ait promis de le rendre. À condition que tu lui dirais au juste, s'il est dans l'intention de le rendre ou non, quelle est à ton avis la résolution du crocodile? Le marchand. Il n'est pas facile de répondre à ta question, et je ne sais pas trop ce que je dois dire pour recouvrer mon fils. Par Jupiter, réponds pour moi, et sauve-le vite, de peur que le crocodile ne l'avale avant ta réponse. Chrysippe, sois tranquille, et je t'apprendrai autre chose bien plus admirable. Le marchand, lesquels? Chrysippe, le moissonnant, le dominant, l'électre qui les vaut tous, et le voilé. Le marchand, qu'est-ce que c'est que ce voilé et cet électre? Chrysippe, c'est la fameuse électre, fille d'Agamemnon, qui en même temps sait une chose et ne la sait pas. Quand Oreste se présente inconnu devant elle, elle sait qu'Oreste est son frère, mais elle ne sait pas que cet inconnu est Oreste. Voici maintenant le voilé. Tu vas entendre là une invention admirable. Réponds-moi, connais-tu ton père? Le marchand, oui. Chrysippe, eh bien, si en te présentant un homme voilé, je te disais, connais-tu cet homme? Que me répondrais-tu? Le marchand, je ne le connais pas. Chrysippe, cependant cet homme voilé était ton père, donc, si tu as dit ne pas le connaître, il est clair que tu ne connais pas ton père. Le marchand, pas du tout, je n'ai qu'à lui ôter son voile, je saurai bien ce qu'il en est. Enfin, quel est le but de ta sagesse, et que feras-tu quand tu seras arrivé au sommet de la vertu? Je posséderai alors les derniers dons de la nature, je veux dire la richesse, la santé et d'autres choses semblables, mais avant d'y arriver, il faut beaucoup travailler, coller ses yeux sur de gros volumes d'écriture très fines, entasser des sacoches, se farcir de solécismes et de termes absurdes, mais le point capital, ce n'est pas possible de devenir sage si l'on n'a pas appris trois fois de suite l'élébore. Le marchand, voilà de beaux principes et dignes d'un grand cœur. Pourtant, être un gnafon, un usurier, car je sais que c'est aussi là une de tes qualités, est-ce bien digne d'un homme qui a bu de l'élébore et de parfaite vertu? Chrysippe, oui, seul le sage a le droit de prêter à usure, puisque seul il fait des syllogismes, car prêter à usure et calculer les intérêts, c'est à peu près la même chose que de faire des syllogismes, l'un comme l'autre, appartiennent exclusivement aux sages. Seulement, il ne doit pas, comme la plupart des usuriers, exiger simplement les intérêts, mais encore les intérêts des intérêts. En effet, ne sais-tu pas que des premiers intérêts naissent les seconds, qui en sont, pour ainsi dire, engendrés? Tu peux voir là que c'est un syllogisme en bonne forme. Si le sage touche les premiers intérêts, il doit aussi toucher les seconds. Or, il touche les premiers, donc il doit toucher les seconds. Dirons-nous aussi la même chose de l'argent que tu reçois des jeunes gens pour payer tes leçons? Est-il évident qu'il ne convient pas qu'au seul sage de faire payer ses leçons de vertu. Chrysippe, tu saisis. Ce n'est pas pour moi que je prends, c'est pour celui qui donne. Puisque l'inverse, l'autre doit recevoir. Je m'apprends à recevoir et mon disciple à verser. Le marchand. Mais tu disais le contraire, que c'était le jeune homme qui recevait et que toi, le seul riche, tu versais. Chrysippe, tu veux rire, mon ami. Mais prends garde que je ne te décoche un syllogisme indémontrable. Le marchand. Et quel mal ce trait me ferait-il? Chrysippe, la perplexité, le silence, le bouleversement de l'esprit. Mais ce qu'il y a de plus fort, c'est que, si je veux, je puis à l'instant te changer en pierre. Le marchand. Comment en pierre? Tu me parais pas un percé, mon cher. Chrysippe. Voici comment. La pierre est-elle un corps? Le marchand. Oui. Chrysippe. Eh bien, un animal n'est-il pas un corps? Le marchand. Oui. Chrysippe. Et toi, n'es-tu pas un animal? Le marchand. Je le crois. Chrysippe. Donc, tu es une pierre, puisque tu es un corps. Le marchand. Pas du tout. Mais voyons, par Jupiter, tire-moi de peine et fais-moi redevenir homme comme avant. Chrysippe. C'est facile, mais tu devras revenir homme. Réponds. Tout corps est-il animal? Le marchand. Non. Chrysippe. Eh bien, une pierre est-elle un animal? Le marchand. Non. Chrysippe. Toi, tu es un corps. Le marchand. Oui. Chrysippe. Étant un corps, tu es un animal. Le marchand. Oui. Chrysippe. Donc, tu n'es pas une pierre, puisque tu es un animal. Le marchand. Tu m'as rendu un grand service. Déjà mes jambes se refroidissaient comme celles de Niobé et commençaient à se roidir. Allons, je vais t'acheter. Combien en veut-on? Mercure. 12 mines. Le marchand. Tiens. Mercure. L'as-tu acheté tout seul? Le marchand. Non vraiment, mais en société de tous ceux que tu vois ici. Mercure. Ils sont nombreux. Ils ont les épaules fortes et sont taillés par le moissonnant. Jupiter. Ne perdons pas de temps, à un autre. Mercure. Viens ici, péripatéticien, le beau, le riche. Achetez-moi le plus éclairé de tous, le savant universel. Le marchand. Quelles sont ses qualités? Mercure. Il est modéré, doux, accommodant, et qui plus est, double. Le marchand. Que veux-tu dire? Mercure. Il est en dedans autrement qu'en dehors. Si tu l'achètes, n'oublie pas de distinguer en lui l'ésotérique et l'exotérique. Le marchand. Et que sait-il le mieux? Mercure. Il y a 3 sortes de biens, ceux de l'âme, ceux du corps et ceux de la fortune. Le marchand. Sa morale est humaine. Combien vaut-il? Mercure. 5 mines. Le marchand. C'est cher. Mercure. Non, mon ami, car il paraît avoir lui-même de l'argent. Ainsi, dépêche-toi de l'acheter. D'ailleurs, il t'apprendra tout de suite combien de temps vit un ciron, à quelle profondeur de la mer descendent les rayons du soleil, de quelle nature est l'âme des huîtres. Le marchand. Par Hercule, voilà une science minutieuse. Mercure. Que sera-ce quand tu lui entendras dire les choses encore plus subtiles au sujet de la procréation et de la génération, de la formation de l'embryon dans le ventre de la mère, soutenir que l'homme est un animal ridicule, et non pas l'âne, qui construit point de maison et ne navigue point? Le marchand, voilà des enseignements admirables et d'une haute qualité. Je l'achète 20 mines. Mercure, soit. Voyons, il nous en reste quelques autres. Ah, ce sceptique! Ici, diras, viens que nous te mettions aussitôt en crier. On commence déjà à s'en aller, les acquéreurs vont être en petit nombre. Allons, qui est-ce qui achète celui-là? Le marchand, moi, mais d'abord, dis-moi ce qu'il sait. Le philosophe, rien. Le marchand, que veux-tu dire par là? Le philosophe, je ne crois à l'existence de rien. Le marchand, mais nous, Que sommes-nous donc ? Le philosophe.
Je n'en sais rien.
Le marchand. Et toi, qu'es-tu ?
Le philosophe.
Je n'en sais absolument rien.
Le marchand. Voilà un doute. Que veulent dire ces balances ?
Le philosophe.
Elles me servent à peser les raisons et à juger de leur égalité. Quand j'ai vu qu'elles sont pareilles et de même niveau, alors je ne sais laquelle est la plus vraie.
Le marchand. Pour le reste, que sais-tu faire ?
Le philosophe.
Tout, excepté poursuivre un esclave fugitif.
Le marchand.
Et pourquoi cela ne t'est-il pas possible ?
Le philosophe.
Parce que, mon ami, je ne puis le saisir.
Le marchand.
Je le crois. Tu me parais un garçon lourd et stupide.
Mais enfin, quel est le but de ta science ?
Le philosophe.
L'ignorance.
Je ne sais ni entendre ni voir.
Le marchand.
Es-tu sourd et aveugle ?
Le philosophe.
Oui, et par-dessus. Dénué de sens et de jugement, en un mot, je diffère peu d'un verre.
Le marchand.
Je veux t'acheter à cause de cela. Combien vaut-il ?
Mercure.
Une minatique.
Le marchand.
La voici. Eh bien, qu'en dis-tu ?
T'ai-je acheté ?
Le philosophe.
Je n'en sais rien.
Le marchand. C'est sûr pourtant. Je t'ai acheté et je t'ai payé.
Le philosophe.
Je m'abstiens et ne décide pas la question.
Le marchand.
Malgré cela, suis-moi, car tu es mon esclave.
Le philosophe.
Qui sait si tu dis vrai ?
Le marchand. Le crieur, l'argent et le monde qui est ici.
Le philosophe.
Y a-t-il du monde ici ?
Le marchand.
Je vais tout à l'heure te conduire au moulin et te faire voir que je suis ton maître grâce au raisonnement qui fait gagner la mauvaise cause.
Le philosophe. Je ne décide pas la question.
Le marchand.
Et moi, par Jupiter, je la tranche.
Mercure.
Allons, cesse de t'entêter. Et suis ton acquéreur, vous autres, nous vous invitons pour demain matin, nous mettrons en vente les sectes ignorantes, ouvrières et de vil prix.